Racontez le réel.
Racontez le réel.
Racontez le réel. Le podcast qui explore.
Le podcast qui explore les dessous du documentaire.
Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 37, filmer l'intime et le politique au féminin, troisième partie.
Tous les personnages du film ont une très grande conscience de en quoi leur existence et ce qu'ils vivent au quotidien est politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans le film et c'est ce qu'ils racontent. Ils savent très bien que faire un film ne va pas changer leur vie, mais faire ce film et s'exposer, mettre sa vie dans ce film, c'est parler, enfin c'est donner sa vie au cinéma comme on donne sa vie à la science.
À l'occasion de la 46e édition du Festival Cinéma du Réel, qui a notamment consacré une rétrospective à Claudia von Hallmann en lien avec le thème « Filmer l'intime », nous vous proposons trois épisodes pour explorer l'intime et le politique au féminin avec six réalisatrices de trois générations différentes. Après avoir rencontré les pionnières Claudia von Hallmann et Claudine Bory dans le premier épisode, puis Alex Poukine et Mallory Eloi-Pesley dans le second, dans ce troisième et dernier épisode, je vais à la rencontre de la relève des cinéastes en devenir. La première invitée est Lucie Demange, qui s'est fait notamment remarquer l'année dernière en 2023 en remportant au Festival Cinéma du Réel le prix du public Première Fenêtre avec son court-métrage « Quitter Chouchou ». Ma seconde invitée est Marie Vétez, qui a réalisé le court-métrage « Des châteaux de sable » sélectionné au Festival Cinéma du Réel 2024 dans la catégorie Première Fenêtre. Filmer l'intime et le politique au féminin, troisième et dernière partie, ça commence maintenant. Bonjour Lucie et Marie, bienvenue.
Bonjour Clément.
Bonjour.
Pour commencer ce troisième et dernier épisode sur le thème « Filmer l'intime et le politique au féminin », revenons sur ce qui vous a donné envie de faire des films. Qu'est-ce qui vous anime, Lucie ?
Moi, de base, en fait, j'ai fait une école de cinéma, la Cinéfabrique à Lyon, dans laquelle je suis rentrée un peu... Pas par hasard, c'est pas vrai parce qu'il y a un concours d'entrée et tout, mais je l'ai passé parce que j'étais au conservatoire de théâtre de Saint-Étienne juste avant. J'avais bossé avec les gens de la Cinéfabrique, on avait fait un truc avec des enfants ensemble et je m'étais dit tiens, le fonctionnement de leur école a l'air marrant, assez horizontal, je devrais peut-être aller là-bas, mais j'étais un peu perdu, j'étais pas spécialement cinéphile ou quoi. Et c'est le genre de profil qu'ils aiment bien à la Cinéfabrique, d'aller pêcher un peu des gens un peu perdus en fait. Et du coup, j'y suis rentré comme ça. J'avais pas vraiment connaissance, je regardais pas du tout de documentaire, encore moins que du cinéma de fiction. Mais je faisais beaucoup des espèces de vlogs, genre tout le temps, je filmais dans ma famille et tout ça. Et en fait, on a commencé la première année par un module de documentaire avec Régis Sauder, et avec qui on a écrit des premiers projets de documentaire, et il m'a vraiment donné le goût de ça, quoi, ce truc de... les questions de se placer en tant que cinéaste vis-à-vis d'un sujet filmé de manière fraternelle ou sororale. Il avait tout un discours par rapport à ça qui m'a hyper parlé et conquis. Quoi. Et du coup, moi, c'est vraiment comme ça. Quoi. Via, un peu par hasard, mais via l'institution au final, grâce à l'école quoi, que je me suis plongée là-dedans.
Marie.
Alors, bah moi aussi, j'ai fait une école. J'ai fait la FEMIS. Je viens de sortir diplômée cette année. Je l'ai fait en montage. Donc moi, en fait, je suis pas réalisatrice, en fait. Enfin, là, oui. Mais je suis monteuse, avant tout. Et c'est dans le cadre de mon diplôme à la FEMIS que j'ai réalisé ce film, Des châteaux de sable, un documentaire. La consigne étant... de devoir réaliser un film composé à peu près à 70% d'archives, mais ça pouvait être fiction, documentaire, tout ça. Et moi, j'ai choisi de faire un documentaire parce que j'avais un paquet d'archives familiales donc que mon père avait tourné pendant toute mon enfance. J'avais une quarantaine d'heures de ça. Et je trouvais que c'était un formidable travail de montage, justement, d'essayer de se raconter soi à travers toutes ces rushs familiales. J'avais envie de travailler là-dessus, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis venue à faire ce film. Après, j'ai jamais eu l'ambition de réaliser. Je sais pas si je réaliserai encore. J'ai beaucoup aimé faire ça. Mais, voilà, je suis pas réalisatrice.
Et c'est pour ça que vous avez choisi plutôt le montage ?
Oui, c'est le montage, oui, parce que je suis venue au montage par le jeu aussi, je voulais être comédienne au départ, et pour moi le montage était, c'est l'endroit où j'ai retrouvé le plaisir d'interpréter, de raconter une histoire, ça rejoint beaucoup le jeu pour moi et l'interprétation, et c'est un temps, un rythme qui me convient très bien, un rythme long, lent, on peut dormir sur ce qu'on vient de faire la journée et se réveiller le lendemain et avoir eu des idées. Alors que par exemple, quand on réalise le tournage, tout ça, c'est pas du tout pour moi, ça va beaucoup trop vite. Faut prendre des décisions tout de suite, on n'a pas le temps, on peut pas dormir dessus, c'est pas possible. Moi, c'est pas un moyen d'expression qui me convient. C'est pour ça que ça me convenait très bien aussi de faire un film de montage avec très peu de tournage. C'est que c'est vraiment ce temps-là qui est nécessaire pour moi pour que je puisse m'exprimer, en fait.
Lucie, vous voulez réagir peut-être ?
Ah ouais, je suis dac. Hein. Moi aussi, j'aime bien être en montage. Enfin, moi, je fais pas de montage, mais c'est quelqu'un. Enfin, je monte avec une monteuse, mais enfin, moi, je me dis là, j'ambitionne de me replonger dans un tournage, mais d'avance, j'ai un peu. C'est vrai que c'est un truc, ça te met dans un état d'être dépassé tout le temps par les événements, quoi. Et au moins en montage, t'as un truc où les trucs sont faits, tu vas pas repartir, enfin tu fais avec ce que t'as maintenant, et je sais pas, t'es vachement plus en paix avec ton processus, quoi. Et moi aussi, ça, je crois que j'aime bien le montage pour ça.
Vous avez toutes les deux documenté votre famille, votre intime personnel, pour finalement soulever en toile de fond des sujets plus larges. On a la question de l'identité de genre dans Quitter Chouchou et celle finalement du modèle familial éventuellement et du couple dans Des Châteaux de Sable. Pouvez-vous nous parler chacun votre tour peut-être de ces deux films, donc. Commençons par vous si vous voulez, Lucie. Ouais.
La situation de base est un peu mise en place, un peu scénarisée. En fait, c'est avec des potes, on va en vacances chez ma mère qui habite au Tréport en Normandie, au bord de la mer. Et il se trouve que ma mère est en rupture avec mon beau-père, Chouchou. Et en plus, qu'elle n'accepte pas le fait que je ne sois pas sa fille ultra féminine qu'elle aurait rêvé d'avoir. Et donc, le séjour passé chez elle s'annonce mouvementé. C'est un peu le croisement entre sa séparation à elle avec Chouchou et comment ça laisse de la place pour explorer un peu les non-dits de la relation entre elle et moi, via aussi le prisme de mes amis, du coup, qui font vachement relais de cette parole qui a du mal à exister entre elle et moi. En gros, c'est ça.
On écoute un extrait de Quitter Chouchou, prix du public dans la sélection Première Fenêtre de Cinéma du Réel en 2023, que vous avez réalisé à Lucie Demange.
Mais moi, tu m'as mis un blanc. C'est dégueulasse.
Mais quoi, c'est pas dégueulasse? T'as changé ta couleur?
Non. Ah si. Oh là là, je suis ravie qu'il soit pas là. C'est hyper bien.
Non?
Ah bah, on va pouvoir allumer la lumière dans le couloir.
Non, attends. Je vais bien parce que sincèrement, je le vis très bien de vivre toute seule.
Ça te fait du bien alors?
Oh là. Ah non. Il manquait pas, il y avait pas une autre assiette là?
Une verte?
Non,
une transparente.
Non, ah, j'ai utilisé ce midi, laisse tomber.
Tu veux que je la lave?
Non, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est pour...
Mais c'est cool, parce que t'avais un peu peur, quand même.
Ouais, j'avais peur. Oui, j'avais peur qu'il me manque.
Et là, il manque pas?
Non.
Bah oui, normal.
Je suis obligée de reconnaître.
Bah, c'est trop bien.
Pas du tout. Tu sais, il y a des moments où j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, moi.
Ah bah, comme Lucie, tiens.
Je suis incapable, en fait, d'exprimer. Je m'en rends compte maintenant, de plus en plus. Je suis incapable de dire des mots quand une situation me dérange.
Et là, c'est quoi qui te dérange?
Ben, je me pose la question de l'identité. Je vais voir.
Mais Lucie.
Ben oui. Ben moi je suis pas comme ça, je comprends pas ça.
Ouais, mais je peux comprendre.
Je comprends pas. C'est quand même violent.
Mais quoi?
Mais de l'avoir.
Parce qu'elle correspond pas à un truc que
mais
tu
c'est pas
imaginé.
Que ça correspond. Ben c'est pas ça, c'est que je les choses ne sont jamais dites.
Effectivement, dans Quitter Chouchou, vous questionnez le regard aussi de votre mère qu'elle a sur vous, tout en filmant donc cette fin de relation difficile qu'elle vit. Il y a un parallèle intéressant que j'ai trouvé personnellement, où finalement, on a l'impression que vous vous affirmez de plus en plus en tant qu'homme au fil du film, quand elle arrive de plus en plus à virer en quelque sorte son ancien conjoint.
Ouais, je sais pas si... C'est mort. J'y ai pas pensé comme ça, parce que moi, j'estime pas que je m'affirme en tant qu'homme. Je m'affirme ni en tant que femme ni en tant qu'homme. Enfin, moi, pour moi, c'est si je me situe quelque part, à la limite, je vais dire que je suis un peu post-gender ou quoi. Enfin, pour moi, c'est des. Je me place pas du tout à un pôle ou à un autre de ce spectre de genre-là. Mais c'est vrai que le truc, il est marrant parce que, ouais, en effet, genre, plus on vire chouchou et plus je suis là. Prendre entre guillemets, c'est vrai, on pourrait croire des fois le rôle du. je vois pourquoi on peut penser ça, du père de famille un peu, mais en vérité c'était plus une manière de se dire bon, en fait on a passé beaucoup de temps à pas se côtoyer, à être éloigné parce que notre relation était devenue trop dure en fait, trop imprégnée de justement moi du fait qu'elle ne supporte pas qui j'étais, et dès que je la voyais du coup c'était des remarques sur mon physique tout le temps et tout, et là en fait le fait plutôt que chouchou s'en aille, c'était plutôt nous avons une cause commune qui nous permet de nous réunir, qui est l'accompagner dans cette forme d'émancipation, quoi. Et du coup, c'était plutôt un peu ça l'idée. Mais c'est vrai que c'est un commentaire qu'on m'a déjà fait, que d'un coup, je prenais la place en mode ouais, je comprends qu'on puisse le penser, même si je ne l'ai pas réfléchi comme ça, en effet.
Ce film est un second film après Synthé, Capitale des Queers que vous avez fait il y a 3 ans de ça. Ce second film est peut-être plus centré sur l'intime, même s'il soulève une question très politique en fond qui est le coming out au sein de sa famille. Et s'assumer aussi face au regard et au jugement des autres. C'était une volonté de faire un film peut-être plus intime que le premier ?
Ouais, c'était une volonté. Bah, en fait... Pareil, enfin moi je l'ai comme toi, ce film-là je l'ai aussi fait lié à des trucs d'école. En fait c'est qu'on nous à la Cinéfabrique quand on sort de l'école on peut avoir 1 500 € et du matos pour faire un film. Ça s'appelle le film à tout prix et du coup je me suis dit vas-y il faut que je profite de ce truc et que je propose un film. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Du coup en fait de base l'envie du film était liée au fait d'avoir une proposition, d'avoir des sous et du matos. Du coup je l'ai plutôt pensé comme ça, de genre vas-y il faut que je trouve un sujet parce que c'est quand même cool qu'on te propose avec zéro autre condition que écrire vite fait un pitch, des sous et du matos quoi. Et en fait, c'est juste que j'étais plongée là-dedans à ce moment-là, dans les histoires de ma mère qui étaient vachement intenses avec Chouchou. Et c'est que j'ai vu un film, en fait. Moi, c'est souvent comme ça, c'est je me dis, qu'est-ce qui pourrait... C'est presque un truc un peu charognard, tu vois, de qu'est-ce qui va faire un bon truc de ciné, là. Et en fait, c'est un peu ça qui s'est passé, quoi. J'étais face à cette histoire d'un coup et je me suis dit, là, il me semble que quand même, il y a une situation, il y a des personnages. Bon, voilà, ça pose un peu des questions éthiques, mais je trouve que le documentaire, de toute façon, en soulève tout le temps. Mais je me suis dit, cette rupture qui est en train de vivre ma mère, que je sens arriver de manière très concrète, bien que ça fasse des années que ça dure, me semble être un bon fil conducteur pour parler d'autres choses et ne pas faire un film qui soit que sur des sujets queer, en mode film enfant-parent, relations difficiles. Je trouvais ça chouette que ce soit englobé dans autre chose, en fait, et qu'il y ait plein de trucs qui sous-tendent cette narration familiale, quoi. Donc, je me suis pas en soi dit « Ah, là, je vais faire un film vraiment intime et tout », je me suis plutôt dit « Ok, là, il y a une situation qui se passe dans ma vie, et il me semble que ça ferait un bon film, du coup, allons-y, quoi. »
C'est vrai que dans votre film, on voit la rupture se faire entre votre mère et son conjoint. La caméra a précipité cette rupture ?
Je pense pas que la caméra ait précipité cette rupture. Je pense que, par contre, les personnes se sont hyper vite habituées à la caméra, de manière assez bluffante. Et ça n'a pas du tout inhibé la parole. Au contraire, en fait, c'est comme si la caméra elle a accentué la nécessité de témoigner. Par exemple, il y a une scène de dîner à un moment dans Quitter Chouchou où ma tante, on l'avait invitée à dîner, mais vraiment, moi, je l'avais invitée en me disant, c'était le début du tournage, je savais pas trop ce que je cherchais, je me suis dit, ça va être marrant de faire une scène un peu de sororité entre les différentes femmes de la famille, donc ma mère, ma tante, parce qu'on avait vécu plein de dîners comme ça. Et en fait, ma tante s'est mise à vraiment en mettre plein la gueule à Chouchou, quoi. Mais personne lui avait demandé, et on était là en mode, on était hyper gênés, en mode, ouais, ça tourne, ok. Ok, et personne ne demande de couper, bon bah on coupe pas, mais en fait je pense que c'est arrivé aussi parce que la caméra était là et parce qu'elle avait besoin de dire quelque chose. Ça fait que ouais, tout le monde était une version exacerbée de soi-même en tout cas, et ça a été, en fait il a fallu plus genre calmer les personnages, notamment au montage et tout, parce que tout le monde était méga too much par rapport à sa version de soi, enfin vraiment on aurait dit une espèce de la vie version vaudeville, dès que la caméra était là. Et tout le monde performait un truc, quoi. Et du coup, non, nous, après, on a vachement... Enfin, et c'était, moi aussi, j'étais pas archi bien de faire ça parce qu'on a aussi vachement couru après les étapes de cette rupture. Genre, moi, je savais... Enfin, à un moment, j'étais là en mode, OK, là, je crois qu'il y a des étapes décisives. En fait, faut qu'on aille au Tréport tourner dans 2 semaines. Donc, ou dans 1 semaine, let's go. Enfin, c'était... Enfin, c'était super épuisant et juste pragmatiquement, et même des questions éthiques que ça soulevait et tout, même si on s'est vraiment jeté dedans en mode bon, bah, let's go quoi. Mais je sais qu'au final, les trucs, même si ça a été hyper remuant, moi je sais que ma mère par exemple, elle en tire beaucoup de positifs de l'existence de ce film, d'avoir un objet qui. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent quand même assez seul, et du coup, d'avoir soudain, même si c'est un moment. Ça condense beaucoup de moments difficiles, ce film. Une forme de témoignage, en fait, d'archive de sa vie et des difficultés qu'elle comporte, qui est montrée, en fait. Et une existence très seule et très privée qui, d'un coup, devient... Enfin, a une existence vachement plus tangible. C'est une forme de reconnaissance, quoi. Enfin, je crois.
Marie Béthez, passons à vous maintenant, à votre film « Des châteaux de sable ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce film ?
Oui, alors c'est un film du coup que j'ai réalisé dans le cadre de mes études à la FEMIS, mon diplôme de montage. Au départ, c'est un film que je voulais réaliser à partir d'images des films familiaux que mon père a filmés, en fait, de moi et ma sœur, principalement quand on était petites. Et j'avais envie aussi de parler d'une ville en Normandie. On est beaucoup allé en vacances à Olt, c'est pas très loin du Tréport d'ailleurs. Et c'est une ville qui est un peu, pour moi, qui est un peu le symbole d'un échec. D'un échec quelque part dans ma famille et dans le couple de mes parents aussi. Parce que c'est un endroit où mon père allait énormément en vacances quand il était petit, où nous-mêmes, ma sœur et moi, on est allés en vacances quand on était petites. Mais on allait au camping. Et ça a été un peu quelque chose de très marquant pour nous, parce que mon père avait envie d'acheter une maison de vacances là-bas, ma mère non, et finalement ils n'ont pas acheté la maison. Et puis quand ils ont vieilli, ils avaient tous les deux envie d'une maison, mais ils n'avaient plus d'argent, plus assez d'argent, parce que les prix avaient augmenté pour acheter une maison. Moi, j'ai ce souvenir d'enfant qu'à partir de ce moment-là, quelque chose s'est brisé, en fait, dans l'image que je me faisais de mes parents, dans l'unité de la famille, en fait, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais envie de parler de cette ville qui est très particulière aussi, parce que c'est une station balnéaire qui a connu vraiment un temps florissant au début du XXe siècle, en fait, avec... déjà les bourgeois au départ, et ensuite une deuxième vague des premiers congés payés, tout ça, avec un public plus populaire et tout ça, et qui finalement a été complètement en déclin à partir des années 70-80, à partir du moment où les gens ont pu partir en vacances beaucoup plus loin pour beaucoup moins cher. C'était plus du tout une destination privilégiée, et la ville a une particularité, c'est qu'elle est construite sur une falaise qui s'effondre par érosion naturelle et infiltration d'eau d'année en année, quoi. Donc c'est une ville qui a eu un faste énorme et qui se dégrade, et il y a des pans entiers de la ville qui s'effondrent, des quartiers qui tombent et des belles maisons qui tombent. Et ça me semblait un assez beau parallèle par rapport à l'effondrement relatif, hein, mais en tout cas tel que je le percevais, du couple de mes parents, avec c'est l'histoire de cette ville. Donc j'avais envie de mêler les deux. Et c'était ça au départ mon film. Et puis en fait au moment où je l'ai commencé, j'ai vécu une rupture avec mon compagnon avec qui je vivais depuis 7 ans. Et là tout s'est effondré pour moi. C'était très soudain et ça m'a vraiment... j'étais emportée, traversée par tous mes sentiments contradictoires, exacerbés de cette rupture avec le film que je devais faire aussi en même temps, qui parlait du couple, d'un certain effondrement, d'une ville que le temps fait s'effondrer aussi. Et je me suis dit, en fait, de toute façon, j'arrive à penser rien d'autre qu'à la rupture que je suis en train de traverser. Donc, il faut que je parle de ça, parce que sinon, je n'arriverai pas à faire mon film. Et puis, quelque part, c'est un peu tragicomique, mais ça collait parfaitement, quoi. C'était l'élément qui manquait, peut-être, à mon film, en fait. Voilà. Donc, il s'est trouvé que, du coup, mon film est composé de ça, d'archives familiales, un peu d'histoire, un peu de cette ville en filigrane de station balnéaire. Et puis, des images que j'avais filmées. J'avais filmé mon copain sur mon téléphone quand tout allait bien, sans penser un jour que ce serait des archives. Enfin, voilà. Les petits films que j'avais faits sur mon téléphone 2 semaines avant étaient devenus des archives. C'était terrible, mais c'était comme ça. Voilà. Du coup, je me suis servi de tout ça pour construire un film autour du sentiment de tristesse, de perte, et aussi d'essayer de comprendre comment, pourquoi des choses se cassent la gueule. Voilà.
On écoute un extrait de votre film, Marie, Des Châteaux de Sable, sélectionné au Festival Cinéma du Réel 2024 dans la catégorie Première Fenêtre.
On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux.
Quand est-ce que mes parents ont commencé à se disputer? Cette année-là? Ou celle-là? Ou bien encore avant? C'est le moment où j'ai compris que mes parents avaient une existence propre. Jusque-là, je croyais que tous les deux, ils n'étaient qu'un. Leur dispute, que je pensais mauvaise, tournait pourtant autour d'un sujet vieux de 10 ans. Il y avait eu alors une crise immobilière et les maisons se vendaient pour une bouchée de pain. Mon père avait voulu en profiter pour acheter une maison de vacances à Onival. Ma mère n'avait pas voulu. Il n'en avait plus reparlé. Mais là, mes parents vieillissaient. Ils en avaient marre de faire du camping. Ils auraient bien aimé avoir une maison pour les vacances. Mais entre-temps, tout était devenu trop cher. Cette maison qu'ils n'avaient pas eue, ça devenait un regret, un reproche, une obsession.
Effectivement, dans votre film, vous l'avez dit, pour reprendre vos mots, tout se casse la gueule. Vous montrez un schéma qui se reproduirait indéfiniment sur... finalement, l'amour, puis la chute, la séparation, et ça recommencerait un peu. On a l'impression qu'on arrive à la fin du film, on pourrait reprendre le début et que ça fait une boucle un peu interminable. Et que finalement, parce qu'on s'y reconnaît tous aussi, parce qu'on l'a tous vécu, c'est le cycle de la vie presque.
Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que Bon, mon film n'est pas d'un optimisme achevé, c'est sûr. C'est vrai que mon film, c'est plutôt un constat qu'autre chose, je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que aussi, j'étais dans un moment, quand je l'ai fait, où j'avais besoin, à travers ce film, de me retrouver, moi, en me racontant une histoire de ce qui s'était passé, quoi. Ma version, parce que quand on se fait quitter, on est rompu, quoi. Comme dit Annie Ernaux, on est rompu. Et du coup, on se retrouve toute seule, face à soi-même. Et quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, on ne sait plus bien qui on est non plus, parce qu'on a oublié, en fait, qui on était avant. Voilà. Et du coup, moi, j'avais besoin, aussi peut-être par esprit de revanche, parce que j'avais l'impression que la personne qui m'avait quittée n'avait pas été vraiment capable ou ne savait pas vraiment quelle histoire raconter. Quelle était son histoire à lui qui l'avait poussé à me quitter, en fait. Ça, moi, j'avais pas beaucoup de réponses en face. Enfin, parce que cette personne ne savait probablement pas ou ne voulait pas me dire. Enfin, je sais pas. Mais j'étais face à un silence, enfin, quelque chose qui était très brutal, en fait, pour moi. Et du coup, un peu par esprit de revanche, je me suis dit, bah, moi, je vais me raconter ma version. Et non seulement je vais faire face à ma douleur en mettant des mots là-dessus, mais en plus, je vais essayer de l'exprimer aussi pour d'autres personnes que moi, en fait. Et j'espérais, peut-être quelque part, dans l'état dans lequel j'étais, j'espérais trouver des réponses. Enfin, qu'est-ce qui avait provoqué chez moi aussi cette rupture? Enfin, peut-être. Et est-ce que je m'étais relevée aussi avant d'autres ruptures que j'avais pu avoir comme ça? Et en m'intéressant à ce que j'estimais être une sorte de cassure dans l'unité, dans l'image que je me faisais des parents et de l'unité un peu idyllique vraiment de ma famille quand j'étais petite, je me suis aperçue que je n'avais pas d'explication. Enfin, je comprenais rien. Enfin, et du coup, c'est plus un constat que oui, effectivement, des choses se cassent la gueule, mais mes parents, par exemple, sont toujours ensemble. Hein. Enfin, ils sont restés ensemble et ça va, en fait, dans l'ensemble. C'est juste que moi, dans mon esprit d'enfant, ça m'a profondément marqué, en fait, ce moment-là. Donc déjà, tout est relatif. Et puis, en plus, mes parents ont tenu le coup alors que ça avait l'air bien plus grave que ce que moi, j'ai traversé comme crise. Et nous, enfin, mon couple n'a pas tenu le coup non plus. Et j'ai pas d'explication, en fait, là-dessus. Mais juste, j'avais besoin de revenir en arrière pour voir pourquoi, comment ça se cassait la gueule et pourquoi j'ai pas trouvé. Donc, c'est plutôt un constat. Ouais.
Claudia von Allmann et Claudine Bory, que j'ai interviewées dans le premier épisode de cette thématique « Filmer l'intime et le politique au féminin », étaient d'accord pour dire que dans le cinéma, et notamment dans leur cinéma, l'intime et le politique étaient très fortement liés. Cet intime que vous avez documenté, le considérez-vous comme politique ? Lucie, par exemple.
En l'occurrence, oui, parce que je pense que, en effet, enfin, en tout cas politiquement, j'appartiens à une minorité, quoi, minorité queer, etc. Donc, forcément, les questions queer, c'est un truc politique. Donc, oui, c'est politique. Et c'est marrant parce que avant, dans le premier film que j'avais fait dans Synthé Capitale des Queers, qui était beaucoup plus frontalement politique parce que c'était, on organisait une teuf queer avec des enjeux politiques et c'était à quelle galère on faisait face pour l'organiser. Mais j'avais déjà commencé ce truc de, en fait, je parlais, au final, ça, il y avait beaucoup de moments intimes entre amis parce que moi, je voulais déjà partir du postulat que, au final, quand même, les liens politiques qui nous liaient, c'était aussi beaucoup des trucs affinitaires, en fait. Et derrière ces péripéties politiques se cachent des histoires d'amour, des histoires d'amitié, etc., quoi. Donc, et moi, j'ai toujours eu à cœur de, un peu avoir les gens par les sentiments, entre guillemets, de me dire que ce qui touche, et moi, ce qui me touche beaucoup souvent aussi, c'est effectivement les petites histoires qui, d'une manière ou d'une autre, se rattachent à une histoire plus grande. Mais en fait, je trouve que le cinéma permet ça, quoi, d'explorer des trucs sensibles, sentimentaux, je m'inscris, en tout cas j'ai volonté de m'inscrire plus ou moins frontalement, mais dans cette veine-là, quoi, de parler de politique ouais, via l'intime, quoi.
Marie ?
Alors moi, je n'ai pas la volonté du tout, en tout cas d'inscrire ce film-là dans quoi que ce soit d'un discours politique, sûrement pas. Après, comme tu as dit, quand on parle d'intime et tout ça, on est toujours à la croisée de plein de choses qui se jouent, évidemment, socialement et politiquement. De toute façon, nos vies intimes sont imprégnées, qu'on le veuille ou non, du social, du politique. Donc, on peut très bien avoir une vision de mon film plus politique que moi, j'ai envie de revendiquer, en tout cas. Mais après, non, moi, c'est pas du tout une envie de tenir... En fait, j'ose espérer, personnellement, que, par exemple, mon film puisse être perçu par les hommes, aussi bien que les femmes, et puisse être ressenti de la même... Enfin, de la même manière. Enfin, j'ose espérer que j'ai tendu un peu à l'universalité du sentiment de tristesse et de désarroi. Bon, c'est pas assez fort, mais quand on se fait quitter ou quand les choses se cassent la gueule ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas... Voilà. Bon.
Vous parlez d'universalité. Est-ce que votre genre influence votre manière de faire des films ?
C'est en fait une question que je me pose jamais. Enfin, vraiment, je suppose, puisque...
La réponse déjà est intéressante, parce que la génération de Claudia et Claudine, pour le coup, leur genre a grandement influencé les films qu'elles ont faits, puisqu'elles étaient aussi dans une époque où elles avaient envie de faire des films qui parlaient de femmes et qui permettaient de libéraliser la parole des femmes.
Voilà. Moi, personnellement, c'est une question que je ne me pose pas et que je ne me suis pas posée et que je ne me pose pas parce que déjà, peut-être, parce que déjà, je ne me considère pas comme une cinéaste. Du coup, pour moi, cette expérience de faire un film n'était pas faire un film en tant que réalisatrice, en tant que femme, pas du tout. D'autre part... J'ai conscience que je suis une femme. Je trouve ça nécessaire aussi qu'il y ait des femmes qui s'affirment en tant que femmes quand elles réalisent des films. Mais moi, c'est pas du tout l'envie. J'ai pas envie, si tu veux, idéalement, j'aimerais bien ne pas être considérée comme une femme. Je veux pas être considérée comme un homme non plus, mais pas spécifiquement comme une femme, en fait. C'est pas ça que j'ai envie qu'on voit dans mon film, en fait. C'est pas du tout ça que j'ai envie qu'on voit. Et puis aussi, peut-être que mon genre n'influence pas ma façon de faire des films, parce que finalement, je pense que j'ai eu la chance, en fait, d'être assez épargnée par rapport à d'autres femmes dans ma vie. Donc, c'est pas à moi de prendre en main certaines questions politiques quand moi-même, j'ai pas eu ces expériences. Ça veut pas dire que je dis qu'elles existent pas du tout. Au contraire, des expériences de domination masculine, de harcèlement, enfin, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment, pour l'instant, et j'espère que ça va continuer, mais j'ai pas vécu ce genre de choses-là. Je me suis jamais... Pour l'instant, j'ai eu de la chance. À aucun moment, je me suis dit ça, on m'a empêché de faire quelque chose parce que je suis une femme, machin. Parce que je viens d'un milieu assez privilégié, quelque part. Parce que mes parents étaient très libres aussi et ils ne m'ont pas inculqué. Ils ne m'ont pas éduqué dans des clichés de genre, si tu veux. Et du coup, moi, je me suis toujours considérée comme une personne libre où la question du genre, c'était pas une question pour moi. C'était pas une question, je me disais pas queer, mais en même temps, je me dis pas non plus femme, pas du tout homme. C'est quelque chose qui est pas, pour moi, très important. Enfin, personnellement.
Lucie.
Le truc de ma manière de faire faire, genre faire les films et tout, ça, je saurais pas répondre. Après, moi, pour le coup, oui, c'est des questions que je pense et tout. De toute manière, genre, moi, j'apparais comme bizarre, tu vois. Enfin, genre, je m'appelle Lucie, j'ai ma tête. En fait, j'ai même pas le luxe de, genre, me cacher. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, tout de suite, les gens, ils me regardent bizarre et tout. Enfin, bref, il y a un truc où, de toute manière, j'ai un peu. Pas le choix que. D'être cantonné à une espèce de. Enfin, pas de marginalité globale, mais de. Enfin voilà, genre il y a un truc qui est affiché chez moi où ben je suis pas dans la norme attendue quoi. Donc ça de toute manière c'est, enfin pour le coup, moi je ressens ce truc comme voilà un truc qui est vraiment assez central dans ma vie quoi. Voilà, je sais pas du tout où ça va aller mes trucs de combien de temps je vais continuer à faire des films et tout, mais assez vite je me suis dit que je voulais pas que la question première que je me pose ce soit je veux faire des films pour représenter. Enfin, ça produisait pas des bonnes idées de films. Je trouvais que ça marchait mieux de se dire « Ah, j'ai envie de raconter telle histoire où il se passe ça, ça, ça » et dedans de mettre des personnages plutôt queer ou quoi. Mais moi, j'ai à cœur pour le coup, ouais, de... En fait, je trouve que... après, moi, voilà, je suis plus communauté ouais, queer, LGBT, etc. Mais que quand même, bah ouais, on manque cruellement d'espace de visibilité et tout. Et que pour moi, je ferais jamais un film... hétéro, tu vois, ça c'est sûr, par exemple. Enfin, genre, en fait, ça me viendrait même, c'est tellement pas mon monde que j'aurais pas quoi dire. Mais en fait, je vais parler de choses que je connais et du coup, j'ai à cœur de raconter des histoires, mettre en scène des personnages qui soient des personnages issus de un peu des marges, quoi. Enfin, toute proportion gardée. Voilà, enfin, je remarque quand même que quand je vois les gars autour, enfin les mecs cis autour de moi, notamment qui ont été à l'école et tout, qui ont vachement moins hésité en fait à prendre la place. Le sentiment de légitimité, j'ai l'impression, il leur vient plus vite quand même. Moi, j'ai l'impression que ça m'a mis du temps pour me dire ok, mais maintenant j'ai l'impression que je suis sorti de mon sentiment d'illégitimité. Je me dis non, vas-y, maintenant j'ai un truc à faire, j'ai un truc à dire. Let's go quoi. Mais parce que si j'ai la chance de être validé un peu, genre faire des trucs qui commencent à tourner, etc. et tout, mais je pense que ouais, on est quand même plus plus timide, etc. Donc ouais, enfin voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle finalement avec la génération de Claudia et Claudine qui dans les années 70 en tant que femmes ont dû s'imposer et ont eu du mal à s'imposer, et aujourd'hui là, alors qu'il y a plus de femmes réalisatrices, même si on est loin de la parité encore, qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a quand même du mieux, qu'aujourd'hui c'est la communauté queer qui essaye aussi de libérer une parole, de prendre la caméra à son tour.
Sans doute. Mais après, je sais pas, je pense qu'il y a des meufs cinéastes, il y en a pas non plus, des pelletées, quoi. Je pense qu'on n'y est pas encore. Pareil, après, moi aussi, le gros enjeu que je vois, c'est aussi moins de personnes blanches, plus de personnes racisées, ça serait cool, quoi. Aussi, enfin, il y a plein d'enjeux, même des enjeux de classe aussi, de classe sociale, effectivement. Que aussi le cinéma soit aussi plus porté, pas que par des personnes qui viennent de CSP+, ou classe sociale plus haute, bourgeoisie, etc. Enfin, il y a plein de trucs à penser de ce côté-là. Et voilà, quoi.
Considérez-vous votre cinéma comme militant ou pas du tout ? Encore une fois, pour faire le parallèle avec Claudine Borry et Claudia von Hellman, malgré le fait qu'elles aient réalisé des films donnant la parole aux femmes et permettant de libérer la parole autour de l'égalité des genres, elles ne considèrent pas du tout leurs films comme militants et refusent même ce mot. Comment vous positionnez-vous, Lucie, par rapport à ce terme de cinéma militant ?
En vrai, je n'ai jamais réfléchi tant que ça. Bon, moi, je ne refuserais pas le terme, hein. Je trouve ça c'est cool en soi. De militer, de faire un truc militant, ça veut pas forcément dire qu'on fait des trucs didactiques. En fait, si on dit que, par exemple, faire du cinéma militant, ça veut dire, je sais pas moi, offrir un autre regard, offrir de la matière à penser, sans que ce soit forcément didactique, mais que les gens, enfin, typiquement, se disent « Ah, ok, que ça les fasse cogiter et tout, et ça leur donne envie de s'intéresser aussi à des sujets auxquels ils s'intéresseraient pas », je dirais « Bah ouais, pourquoi pas, enfin, qu'on dise que c'est du cinéma militant. » J'y ai jamais trop... trop réfléchi, quoi. Mais je suis pas non plus, voilà, je suis pas hostile à l'idée. Mais voilà.
Nous allons conclure, si vous êtes d'accord. Quels sont vos prochains projets, Lucie ?
En ce moment, j'écris un long métrage de fiction avec Théo Abadie, mon co-scénariste. Et du coup, c'est sur deux personnes queer qui vont accompagner, enfin qui se retrouvent un peu, malgré elles, propulsées à Lourdes pour accompagner un pèlerinage de vieilles personnes aveugles avec une association catholique. Et voilà, et c'est un peu des personnes qui prennent beaucoup de drogue, qui sont beaucoup en after et tout, donc pas forcément très à même de s'occuper d'autrui, en fait, et qui se retrouvent forcés à le faire, et ça les déplace un peu, quoi. Voilà, c'est ça, en gros.
Marie.
Bah alors moi, comme je l'ai déjà dit, je suis monteuse, donc bon, j'ai pas de projet de film. Par contre, je viens de finir le long métrage d'un documentaire tourné en Ukraine par un réalisateur ukrainien. Très beau, voilà. Qui s'appelle « Un rue Angarskaya ». Et je profite de ce podcast pour dire que je cherche du travail. Donc voilà, si vous avez besoin de mes talents de monteuse. Voilà mes projets.
Le message est passé, on le relaiera. Quel film documentaire vous a le plus marqué, s'il fallait en choisir qu'un?
Moi, je dirais vraiment toute l'œuvre d'Alain Cavalier. Et particulièrement à partir du moment où il a filmé, où il a documenté sa vie au jour le jour, enfin ses journaux filmés, quoi. Qui me touche beaucoup dans la manière dont il expose ses propres fragilités, justement. J'aime beaucoup aussi le principe qu'on voit le film en train de se faire, en fait. Et le fait qu'il parle derrière la caméra, qu'il ajuste des choses en direct à l'image. Enfin, c'est dans des petits détails sur les objets, sur les gestes qui peuvent m'émouvoir aux larmes, quoi, presque, en fait. Alors qu'il s'agit de rien, quoi. C'est juste des... Voilà.
Moi, je pense que c'est les films de Lipschitz, en vrai. Le truc, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, mais j'avais vu à sa sortie adolescente, j'avais vraiment adoré. Moi, j'aime trop ce truc où en fait, c'est un peu mis en scène comme une fiction quand même, mais t'as ce truc qu'a le documentaire de filmer des gens sur des années, enfin le vertige que c'est en fait de voir, que le docu permette ça de suivre des gens sur longtemps, et notamment ce que j'avais trouvé hyper fort par rapport à adolescente, c'est ce truc de parler d'un truc vraiment politique qui est le déterminisme social, en vrai, entre deux copines, une plutôt classe pop et une beaucoup plus privilégiée, et de voir comment naturellement genre leurs deux vies s'écartaient, l'une était vraiment obligée de devenir adulte hyper vite tandis que l'autre était encore en train de faire des caprices dans son cocon un peu, voilà, moi c'est un film qui m'a vachement donné envie, en fait, de faire.
Merci à Lucie Demange et Marie Vétez d'avoir accepté cette interview.
De rien.
Merci.
C'était Raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la création documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par Clément Touron, montage de Julia Ponte, illustration et visuel de Justine Lofredo. À bientôt pour un nouvel épisode.